Les Matins de France Culture, Guillaume Erner.
Qu'avons-nous fait du 11 janvier? C'est la question que l'on pose à nos invités, le philosophe Frédéric Worms, le spécialiste de l'islam et du monde arabe contemporain Gilles Kepel, et puis viennent de nous rejoindre une historienne Hélène Blais, bonjour. Et deux étudiants de l'ENS, Alison Bouffet qui fait un master d'histoire de la philosophie et qui travaille sur Spinoza, et Frédéric Salin qui est également étudiant à l'ENS et qui étudie les sciences sociales et plus précisément la sociologie. Alison Bouffet, vous qui êtes étudiante, le 11 janvier, que signifie cette date pour vous ?
Pour moi, elle signifie d'abord un moment, j'étais au 11 janvier l'année dernière, pour moi, elle signifie d'abord un moment où j'ai ressenti un besoin très affectif, où j'ai eu un sentiment peut-être d'impuissance et de tristesse, à partir duquel j'ai eu envie de faire communauté avec mes concitoyens, avec n'importe qui en fait. J'avais besoin de sentir qu'on pouvait faire corps, qu'on pouvait retrouver une forme de puissance par le collectif. Mais pour moi, c'est seulement ça, le 11 janvier. C'est seulement cette communauté d'affect. Donc j'ai peut-être espéré qu'elle produise un projet politique ou un enthousiasme politique. Pour moi, il n'y a pas d'esprit du 11 janvier dans le sens où il n'y a rien de réellement politique ou spirituel ou communautaire ou une réelle identité nationale qui soit ressortie de cette journée. Et donc parler pour moi du 11 janvier comme une sorte d'évidence dans laquelle je pourrais me reconnaître, ça me paraît assez factice. Et c'est d'ailleurs pourquoi je n'étais pas hier à la commémoration qui s'est passée à République, dans laquelle je ne me reconnais pas du tout, et qui pour moi est un symbole mort, un symbole produit par un discours officiel qui n'a aucun sens en fait dans ma propre vie, dans mes affects, et qui ne m'oriente pas du tout dans la difficulté qu'on a aujourd'hui face aux attentats après le 13 novembre.
Auriez-vous attendu un autre discours officiel ?
Non, je pense que c'est le rôle du discours officiel que de vouloir créer l'unité. Je pense qu'aujourd'hui, cette unité sert de garantie pour des actes dans lesquels je ne me reconnais pas du tout, notamment la loi sur l'enseignement ou la guerre qu'on est en train de nous imposer aujourd'hui. Et c'est pourquoi je refuse de participer à ce type de réunion, de communion, comme on appelle.
Frédéric Salin, vous êtes vous aussi étudiant à l'ENS. Ce 11 janvier, que représente-t-il pour vous, s'il représente encore quelque chose ?
Voilà, pour reprendre un peu les propos d'Alison, et je vais dans son sens, j'ai été peut-être un peu dégoûté par ce qu'on a fait du 11 janvier, par l'idée de peuple, par exemple, qui a voulu être créée par le gouvernement. Hier, on a voulu faire un événement populaire. Il y a beaucoup eu de commentaires sur les différentes chaînes d'information sur ce peuple qui manquait, sur la foule éparse. Et j'ai l'impression que derrière cette idée de peuple, derrière cette idée d'événement populaire, ce que veut faire notamment Manuel Valls, c'est une foule qui fait bloc derrière son gouvernement dans la lutte contre le terrorisme, et ce qui induit vraiment une segmentation des possibilités de l'agir politique, et qui se transcrit, qui se manifeste notamment par une traduction à la faveur du gouvernement de cette place de la mémoire de la place de la République, par exemple. La place de la République, c'est devenu un mausolée des victimes des attentats, qui oublie d'autres mémoires qui sont là, d'autres mémoires de l'année 2015. Par exemple, la manifestation du 29 novembre, par exemple, le fait que la place de la République, il y a deux jours, était occupée par des réfugiés, par des demandeurs d'asile qui ont été expulsés de leur centre d'accueil pour avoir manifesté leur droit à la liberté d'expression, pour avoir manifesté leurs revendications contre les conditions de vie qui étaient les leurs.
Hélène Blais, vous êtes historienne, et pour vous, ce 11 janvier, que représente-t-il ?
Alors, j'entends la déception et la désillusion des étudiants. Je pense qu'il ne faut pas désespérer de la perte de l'esprit du 11 janvier. Mais c'est vrai que, et je le dis comme historienne, nous avons besoin de temps pour penser, pour réagir. Je crois que le 11 janvier va permettre ou permet d'infléchir certaines manières de faire, notamment dans les sciences humaines, certaines manières de penser et aussi d'enseigner. Alors, j'évoque plus spécifiquement là l'histoire. Je crois que, pas seulement le 11 janvier, mais l'année 2015 sera un moment où plusieurs et de nombreux chercheurs en sciences humaines ont exprimé une volonté de sortir d'un discours univoque, et en histoire d'une histoire très souvent européocentrée et sans doute trop lisse. Et ce qu'on a déjà évoqué depuis le début de la matinale, ce souci de rompre dans un unanimisme qui paraît imposé, nous, chercheurs en sciences humaines, nous sommes là aussi pour faire entendre d'autres histoires, des horizons, en ouvrant les horizons, en essayant peut-être aussi de raconter l'histoire des autres pour permettre à tous de s'emparer de leur passé.
Gilles Kepel.
Oui, je voudrais abonder dans ce sens parce qu'il me semble que l'affaire du djihadisme français et le fait que la France soit particulièrement touchée aujourd'hui par ce phénomène ramène à la surface ce que j'ai appelé dans Terreur dans l'Hexagone le retour du refoulé rétrocolonial ou le ressac rétrocolonial, quelque chose sur lequel nous n'avons pas véritablement travaillé suffisamment, me semble-t-il. Lorsque Mohamed Merah tue les enfants de l'école juive le 19 mars 2012, au début de la campagne présidentielle, alors qu'on est dans le temps court, mais également c'est le cinquantenaire, jour pour jour, de la mise en œuvre du cessez-le-feu de la guerre d'Algérie le 19 mars 62. Alors on peut dire que Merah lui-même n'en savait peut-être rien. À l'époque du tweet, de toute façon, plus personne ne connaît l'origine de quoi que ce soit. Mais symboliquement, ça m'a semblé extrêmement puissant. D'une certaine manière, il reprend la guerre, comme Kalkal avait repris la guerre. Et c'est là quelque chose qui prend tout son sens quand on voit qu'au même moment, les municipalités Front National, par exemple Robert Ménard à Béziers ou Julien Sanchez à Beaucaire, eux-mêmes pieds noirs par leur origine familiale, débaptisent les rues du 19 mars. Il y a à peu près 500 odonymes, nom de rue 19 mars, qui étaient... Pour le contingent qui partait en Algérie, c'était le retour à la maison. C'était la quille, si j'ose dire. Et qui explique que c'est l'indignité nationale absolue et qui leur donne d'autres noms. Mmh. Je crois que là, il y a quelque chose à comprendre. Et si on ne voit pas que la France n'est pas simplement l'héritière de nos ancêtres les Gaulois ou du département métropolitain, on ne comprend rien. Les États ont essayé de créer ces coupures. Mais les sociétés, elles, ont vécu différemment. La France est aujourd'hui pleine de personnes qui viennent de l'Afrique du Nord, qui sont françaises, qui sont peut-être double nationales, mais qui sont... Et donc là, je crois que l'histoire a un rôle très important à jouer pour nous permettre d'éclairer une des dimensions de ce phénomène.
Alison Bouffet, cette hypothèse de Gilles Kepel qui dirait donc un lien, une conséquence directe, indirecte des événements de la décolonisation et que finalement, à la fois chez Mohamed Merah et chez d'autres djihadistes, des gens qui appartiennent à une toute autre génération, puisqu'ils ont votre âge, vous avez 24 ans et vous êtes la contemporaine de ces jeunes gens, le fait qu'il y ait une conséquence de la décolonisation, une période que vous n'avez pas connue, qu'est-ce que ça vous inspire ?
C'est une question difficile, parce que justement c'est très difficile de parler au nom des autres. Et c'est parfois quelque chose qui me gêne dans les discours aujourd'hui, on parle beaucoup au nom des autres, ce que je vais essayer de ne pas faire aujourd'hui.
Parler en votre nom ?
Oh, d'accord, donc en mon nom, ce que ça m'inspire c'est bien sûr l'envie de travailler. J'ai envie de comprendre justement les causalités qui sont à l'œuvre dans les événements qu'on connaît aujourd'hui. Ce qui m'embête dans ce type de discours qu'on entend, qui a un peu du mal à parvenir, je pense, à tout le monde aujourd'hui par les médias, mais qu'on entend tout de même, cette volonté de comprendre par l'histoire et notamment par l'histoire coloniale, ce qui m'embête dans cette approche finalement des attentats et de ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est qu'elle essaie de résoudre par l'histoire ou par le passé ou par le long terme, et c'est nécessaire, ce qui se passe aujourd'hui, sans voir les possibilités qu'on a aujourd'hui de changer la donne pour peut-être d'autres personnes. Aujourd'hui, j'ai 24 ans, on m'invite pour pouvoir parler publiquement et pour donner ma parole. C'est pas le cas justement de ces personnes qui sont peut-être moins privilégiées par les médias ou par l'audience publique. Et donc, je me demande comment est-ce qu'on peut redonner la capacité à ces personnes d'agir sans qu'ils soient tout le temps mis au silence. Et c'est assez dans certains moments de mobilisation citoyenne, on reste inentendu. Et même moi qui ai participé à certains mouvements, on reste inentendu, on reste souvent accolé à des catégories qui sont celles de personnes d'extrême gauche, par exemple, sans être capable de réellement être entendu par la politique. Donc, voilà.
Caroline Fourest, vous voulez réagir ?
Écoutez, alors je vais m'inscrire contre ce concert de discours dans le sens qu'on n'a jamais entendu des paroles nous expliquer que tout ce qui arrive, et notamment avec la montée de l'islamisme, est lié au ressentiment post-colonial ou à la déshérence sociale. Parce que la réalité, je suis désolée de vous le dire, c'est que ça fait 20 ans, depuis Khaled Kelkal notamment, qu'on n'entend que ça dans le monde universitaire et quasiment que ça. Et que les paroles les plus rares et peut-être les plus originales, celles qu'il faut retrouver à l'université et celle où il manque de jeunes étudiants moins formatés par le discours de leurs enseignants, ce sont des jeunes étudiants et des enseignants qui vont enfin prendre au sérieux la dialectique, la sémantique, la rhétorique, l'idéal et l'idéologie. Parce que le passé colonial, c'est le passé, et je ne suis pas pour qu'on continue à l'expliquer par ce biais-là, hein, mais on l'a tous bien en tête. Tout le monde a bien compris que les petites mains des terroristes agissaient au nom d'une forme d'un ressentiment vis-à-vis de la nation qui pouvait être basée sur la question du ressentiment colonial. Par contre, ce que l'on sait moins, c'est que les donneurs d'ordre, les stratèges, ceux qui pensent l'idéologie qu'aujourd'hui nous attaque, et c'est une idéologie présente et pas passée, elle a des ressorts qu'étudie Gilles Kepel, qu'étudie des universitaires comme Gilles Kepel, et qu'on entend aussi, tant mieux. Mais sincèrement, on les entend depuis peu autant. On a tellement entendu le reste.
Hélène Blais.
Oui, alors, juste pour préciser un petit peu les choses, hein, ça fait même plus de 20 ans, l'historienne Laurence de Kock évoquait une enquête de 1957 dans les cahiers pédagogiques où les universitaires incitaient déjà à s'ouvrir au monde et à enseigner d'autres civilisations. Donc effectivement, mais si c'est une ancienne et que ça se répète, c'est peut-être que malgré tout et malgré ce que vous dites, et je ne suis pas d'accord, hein, je crois qu'il y a, notamment dans l'histoire scolaire et dans les possibilités que l'on a d'enseigner, alors pas forcément uniquement le passé colonial, mais aussi la vie d'autres sociétés, d'autres possibilités, et puis surtout l'histoire des rapports, des rencontres, qui peuvent être des guerres, des conflits, mais qui n'ont pas été que cela, c'est toujours quelque chose que nous avons à faire passer.
Gilles Kepel.
Ce que je veux dire, quand je parle du ressac rétrocolonial, et j'utilise rétrocolonial à dessein, je ne dis pas postcolonial, j'ai créé cette expression, dans une logique qui n'est pas du tout normative. Il ne s'agit ni pour moi de réclamer la repentance, ni de célébrer les aspects positifs de la colonisation. Il ne s'agit ni de l'un ni de l'autre, mais de bien comprendre, de mettre à plat, tout simplement, quelque chose qui, jusqu'alors, participait en grande partie de la mémoire et qui, désormais, me semble-t-il, doit être reconnu comme constitutif de notre histoire. Regardez la production littéraire de cette année, qui me semble très intéressante de ce point de vue-là. Il y a un roman formidable, que je trouve formidable en tout cas, qui a été écrit par Hedi Kaddour, Les Prépondérants, qui raconte justement comment, à travers l'histoire des mentalités d'un certain nombre de personnages qui vivent entre les deux guerres, qui sont dans un Maghreb, un pays qui s'appelle le Maghreb, un pays imaginaire, se construit la relation à l'identité, la relation à la France. Comment un mixte s'est structuré, ensuite s'est différencié autour d'enjeux politiques, et nous en sommes les héritiers, de même que les populations maghrébines en sont les héritiers. C'est pour ça aussi que cette histoire de double nationalité me préoccupe, parce que, d'une certaine façon, beaucoup de Maghrébins d'aujourd'hui, jeunes ou moins jeunes, et beaucoup de jeunes Français qui vivent dans une société plurielle, ont intégré cette espèce de mixité. C'est pas simplement parce que le couscous était la nourriture préférée des Français avant le phénomène massif de découscousification du territoire sous les assauts du halal kebab turc. Hein. Mais c'est parce que il y a là quelque chose qui est consubstantiel à notre identité. Si on le rejette, si on le refoule, que ce soit au nom de l'un ou de l'autre idéologie, on ne comprend pas ce qui se joue dans la société française aujourd'hui. Je crois que ça, c'est très important. Et c'est l'une des causes plurielles qui nous permettent de penser ce que vous voulez que nous pensions aujourd'hui.
Frédéric Salin, l'autre étudiant de l'ENS, votre réaction à ce que vous venez d'entendre?
Oui, c'est pour répondre à Caroline Forest, pour dire que j'ai l'impression que le discours majoritaire qui avait été prononcé pour expliquer les actes des attentats terroristes, c'était pas tellement une étude approfondi du fait colonial. Plutôt, ce qu'on a eu à faire face, c'était un refus de comprendre, l'utilisation des mots tels que barbarie, incompréhensible, folie, et qu'il n'y a pas eu tellement de fouilles dans cette piste.
Mais enfin, le terrorisme islamiste, il frappe aujourd'hui en Irak, il frappe en Syrie, il frappe en Turquie, il frappe dans le monde entier, il frappe en Afrique, il frappe à Nairobi au Kenya, il frappe au Nigeria. Il n'y a rien à voir avec la colonisation. Enfin, il faut cesser d'essayer d'innocenter ces terroristes et ces barbares à partir de notre propre passé. Les Suédois n'ont colonisé personne et pourtant ils ont les mêmes problèmes que nous. Les Allemands n'avaient pas beaucoup de colonies, qu'on sache. Donc cette histoire de colonisation est une manière évidemment d'essayer d'innocenter des gens qui nous font la guerre et de nous affaiblir ainsi. Or nous avons besoin, contrairement à ce que vous dites, d'unité nationale et le pouvoir politique l'a fort bien compris, qui joue cette carte. Bon, c'est peut-être à son profit, mais en attendant, c'est ce dont nous avions besoin, c'est ce que nous exprimions dans la rue le 11 janvier. Nous voulions cette unité, nous ne voulons pas de la division.
Des réactions rapides, Frédéric Salin.
Voilà, ben, je voulais juste rappeler que, comme l'avait dit Judith Butler, au lendemain du 11 septembre 2001, expliquer c'est pas innocenter, expliquer ce n'est pas excuser, et c'est juste la recherche sur un territoire particulier, de logique spécifique. Mais si vous voulez, vous pouvez jamais expliquer totalement un événement. Vous pouvez essayer de segmenter la réalité pour essayer de...
Expliquer pourquoi al-Baghdadi donne des ordres pour frapper la France. Expliquer en quoi la colonisation explique pourquoi Daesh frappe tous les pays du monde.
Hélène Blais.
Oui, enfin, le problème effectivement n'est pas là, n'est pas d'innocenter et je mets au défi quiconque de donner une explication univoque à ces éléments. Notre propos était juste d'expliquer comment notre pratique des sciences humaines pouvait contribuer à éclairer en donnant des formes d'explicitation, mais pas du terrorisme, de la situation actuelle, et surtout en donnant aussi des possibilités d'envisager un avenir commun. C'est ça qui est important, je crois, c'est de ne pas en rester à un passé qui ne passe pas, mais permettre à ce passé d'être intégré et adopté par tous, donc en le racontant à partir de voix multiples.
Frédéric Worms, ce qui est intéressant finalement dans ce débat, au-delà des opinions qui sont des opinions divergentes, c'est qu'on voit que le statut de l'explication en sciences sociales est encore très largement au cœur du débat, des sujets qu'on pouvait croire non pas résolus, mais en partie pensés par des gens comme Dilthey, comme Weber, bref, comme un certain nombre de personnes qui ont étudié l'épistémologie en sciences sociales, sont en réalité des sujets qui semblent encore complètement vierges.
Oui, moi je crois que c'est effectivement la prétention à l'explication peut devenir un leurre comme un discours d'évidence en réalité. Donc il faut surtout...
D'évidence, mais tous les termes sont les problématiques. Sont comprendre, expliquer, oui. Cause, raison, tout ceci est mélangé alors que ça fait longtemps en sciences sociales qu'on fait des catégories, qu'on explique que les causes ne sont pas des raisons, que excuser ça n'a rien à voir avec un discours en sciences sociales.
Ce qui est intéressant, c'est de voir les mots qui remontent de l'événement et les prendre avec des guillemets, y compris les explications spontanées. C'est-à-dire qu'effectivement, si c'est pour dire le colonialisme a produit le terrorisme, je crois que c'est cette causalité qu'il faut suspendre et critiquer. Il faut mettre des guillemets sur ces mots, comme sur les autres, ceux qui surgissent de l'événement aussi, de manière légitime. Hein. C'est une violence qu'il faut condamner absolument. Et en même temps, ne pas s'en tenir à la qualification morale de cette violence, même si elle est indispensable. Et les principes moraux et politiques sont ceux qui doivent nous guider aujourd'hui. Mais je crois qu'il faut donc l'interprétation sociale, la compréhension, penser le 11 janvier, c'est mettre entre guillemets ces différents mots et ouvrir le débat. Et c'est pourquoi il faut mettre le 11 janvier entre guillemets lui-même. Ça n'est pas un bloc unique, on est en train de le discuter. Et je crois que c'est l'ouverture de ce débat qui importe le plus aujourd'hui sur le fond de principe commun.
Un très rapide mot de conclusion, Gilles Kepel.
Oui, quand je parle de ressac rétrocolonial, je ne parle pas de colonial. Je ne suis pas en train d'incriminer une période quelconque de l'histoire ou chercher des responsabilités, pas du tout. C'est une mise à plat, c'est de comprendre le contexte dans lequel nous sommes. Caroline, vous avez mentionné, quand Baghdadi donne des ordres, lui-même n'est pas un produit du colonialisme, quoique l'histoire de l'Irak, elle mérite d'être prise en terre aussi, mais qu'est-ce qui fait que ces ordres, éventuellement qu'il donne, je ne suis pas sûr qu'il donne complètement des ordres d'ailleurs, mais trouvent une résonance aussi forte en France? Vous avez mentionné la Suède, il y a une moindre résonance. Qu'est-ce qui fait que nous sommes le pays qui lance le plus, vous voyez? Et je crois qu'on est toujours dans la même histoire, c'est-à-dire, il faut essayer d'arriver à identifier le faisceau de causalité et ensuite c'est de le hiérarchiser. C'est ça notre travail aujourd'hui. C'est une opération qui est difficile et si on peut effectivement se garder de la norme et de la normativité, je crois que déjà nous aurons fait, comme a priori, nous aurons fait un grand pas en avant.
Mais le débat, Gilles Kepel, sa force, le débat se poursuit d'ailleurs ce soir à l'Institut du Monde Arabe avec vous, Gilles Kepel, à l'auditorium. Vous serez en compagnie notamment d'Antoine Mercier et vous continuerez à évoquer ces thèmes. Et puis évidemment, il se poursuit toute la journée, Frédéric Worms, en compagnie de l'École Normale Supérieure et de France Culture.
Absolument, grâce à partenariat avec vous, une journée entière d'actualité critique. Nous avons lancé ce projet, actualité critique, c'est-à-dire l'actualité est critique, mais il ne faut pas renoncer à la critiquer, c'est-à-dire à la discuter sans oublier ce qu'elle peut avoir en elle-même de critique. Donc toute la journée, effectivement, nous mobilisons des cours et des débats.
Et vous retrouverez ce thème dans tous les programmes de France Culture.